VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 19 octobre 2023, en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Pour commencer les titres, le président américain Joe Biden met Israël hors de cause quant au tir sur l'hôpital de Gaza. Il obtient aussi le passage de l'aide humanitaire. Des manifestants occupent un bâtiment du Congrès américain pour exiger un cessez-le-feu à Gaza. La rue arabe et musulmane exprime sa colère après le tir sur l'hôpital de Gaza. Les présidents français et tchadiens Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby discutent du retrait français du Niger. Les élus républicains n'arrivent toujours pas à élire un speaker ou président de la Chambre basse. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Donc, le président américain Joe Biden a mis mercredi Israël hors de cause après le tir meurtrier sur un hôpital de Gaza et obtenu d'Israël un feu vert pour l'aide humanitaire à Gaza. Venu en personne soutenir Israël, frappé par l'attaque sanglante lancée le 7 octobre par le Hamas palestinien, M. Biden a repris à son compte la version donnée par l'armée israélienne sur cette frappe qui accuse le djihad islamique, une autre organisation palestinienne, qui dément. Le tir a fait au moins 471 morts selon le ministère de la Santé de Gaza, probablement beaucoup moins selon un haut responsable européen du renseignement. Eric Manirakidza fait le point.
Sur la base des informations que nous avons eues jusqu'à maintenant, il semblait que la frappe soit le résultat d'une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste à Gaza, a déclaré Joe Biden, qui assure avoir des éléments probants venant du Pentagone. Le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, a accusé Israël d'être l'auteur de cette frappe, tout comme l'Iran et de nombreux pays arabes, où des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer ce qu'ils ont appelé les crimes sionistes. S'exprimant devant la presse, M. Biden a également indiqué qu'Israël avait donné son feu vert à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, répondant ainsi à la demande des autorités américaines et de la communauté internationale. Israël a toutefois mis une condition. Cette aide ne transitera pas par son territoire tant que les otages détenus par le Hamas palestinien ne seront pas libérés. Le mouvement palestinien affirme détenir entre 200 et 250 otages, au moins 199 selon Israël. Leur libération est d'une absolue priorité, a affirmé le président américain.
Plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël, la plupart des civils, le jour de la pire attaque du Hamas le 7 octobre. Côté palestinien, au moins 3478 personnes ont été tuées, en majorité des civils palestiniens, selon les autorités locales. Des milliers de personnes ont manifesté dans le monde arabe et musulman pour exprimer leur indignation après le tir meurtrier sur un hôpital de Gaza. Les précisions avec John Linden.
D'importants rassemblements ont eu lieu à Amman, Beyrouth, Damas, Tunis et d'autres capitales comme Manama au lendemain du drame qui a fait au moins 470 morts selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza. Le Hamas a accusé Israël d'être à l'origine de cette frappe. Israël, qui dit avoir des preuves, a imputé l'explosion à un tir de roquette raté du djihad islamique qui a qualifié ses affirmations de mensonges. Mercredi, devant l'ambassade d'Israël à Amman, environ 10 000 manifestants, selon une source sécuritaire jordanienne, se sont rassemblés pour exiger l'expulsion de la mission diplomatique israélienne. Des centaines de personnes se sont rendues aux abords de l'ambassade américaine à Beyrouth. À Bagdad, environ 200 personnes ont manifesté près d'une entrée de la zone verte où se trouvent des ambassades étrangères, dont celle des États-Unis. En Tunisie, des milliers de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France, condamnant le soutien occidental à Israël.
L'Arabie saoudite a appelé hier ses ressortissants à quitter immédiatement le Liban où les tensions montent à la frontière avec Israël. Rosine Mounezero.
L'ambassade saoudienne à Beyrouth a affirmé suivre de près la situation dans le sud du Liban, où au moins 18 personnes ont été tuées dans des échanges de tirs entre le Hezbollah pro-iranien, des militants palestiniens d'une part et de l'autre Israël. La plupart des victimes sont des combattants, mais un journaliste de Reuters et deux civils ont aussi été tués et au moins 3 personnes du côté israélien. Le Royaume du Golfe, qui a suspendu les discussions en vue d'une normalisation de ses relations avec Israël, a appelé ses citoyens restés au Liban à faire preuve de prudence et à se tenir à l'écart des lieux où vont se dérouler des rassemblements ou des manifestations. Le Koweït a aussi déconseillé à ses ressortissants de se rendre au Liban. Les personnes souhaitant se rendre au Liban devraient reporter leur voyage, a indiqué dans un communiqué le ministère koweïtien des Affaires étrangères. Le Hezbollah libanais, qui comme le Hamas est soutenu par l'Iran, avait appelé hier à une journée de colère contre Israël, lui imputant le tir meurtrier mardi soir contre un hôpital de Gaza. Des centaines de partisans du Hezbollah ont manifesté hier dans la banlieue sud de Beyrouth.
Ici à Washington, au moins une centaine de manifestants ont occupé mercredi un bâtiment du Congrès américain pour exiger des élus et de l'administration Biden des pressions pour un cessez-le-feu à Gaza. Vêtus de t-shirts noirs barrés de l'inscription, les Juifs disent « cessez-le-feu maintenant » et pas en notre nom. Ils se sont assis en applaudissant et en chantant dans la rotonde du Cannon Building, l'un des bâtiments du Congrès, et ont déployé de grandes banderoles proclamant « cessez le feu et laissez Gaza vivre ». La police du Capitole a interpellé plusieurs protestataires. La manifestation a été organisée à l'appel du mouvement « Jewish Voice for Peace », voix juive pour la paix. Le président Joe Biden s'adressera ce soir aux Américains depuis le bureau ovale sur la réponse des États-Unis aux attaques terroristes du Hamas contre Israël et à la brutale agression de l'Ukraine par la Russie, a fait savoir hier sa porte-parole Karine Jean-Pierre. Cette adresse à la nation est prévue à 20h locale, soit minuit GMT. Ici, aux États-Unis toujours, l'élu républicain Jim Jordan a de nouveau échoué hier dans ses tentatives pour être élu speaker ou président de la Chambre des représentants, ce qui enfonce un peu plus le Congrès américain dans la crise, Jean-Roger Bion.
Jim Jordan, élu de l'Ohio, membre de la frange la plus conservatrice du Parti républicain et proche de Donald Trump, est le seul candidat en lice. Il n'est pas parvenu mardi au premier tour de vote, puis mercredi au second tour a obtenu les 217 voix pour être élu à la tête de l'hémicycle. Une vingtaine d'élus modérés lui reprochent ses positions extrêmes et refusent de le laisser accéder au perchoir. Les démocrates qui dénoncent sa position ambiguë sur la présidentielle de 2020 ne veulent pas plus l'aider à accéder à la présidence de la Chambre basse du Congrès. Cette élection pourrait donc s'étaler sur plusieurs jours. Celui qui a perdu le poste, Kevin McCarthy, avait dû batailler pendant 15 tours de vote avant d'accéder au perchoir en janvier dernier. Les républicains veulent à tout prix éviter de revivre un tel scénario qui était diffusé en boucle par toutes les télévisions. La Chambre des représentants n'a pas de président depuis la destitution historique de Kevin McCarthy le 3 octobre, privant le Congrès de ses principaux pouvoirs, dont l'adoption de lois, et le blocage continue.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et président français Emmanuel Macron et de transition au Tchad, Mahamad Idriss Déby Itno, ont fait le point mercredi à l'Élysée sur les crises régionales et le retrait des forces françaises du Niger. Poussée à quitter le Niger après un putsch en juillet, l'armée française doit évacuer 1400 hommes et leur matériel en majeure partie via le Tchad. Au Soudan, le nombre de familles souffrant de la faim a presque doublé depuis un an, ont indiqué hier l'OMS et l'UNICEF. La guerre qui a plongé le pays dans le chaos a fait plus de 9000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. Nanik Talani.
100 000 enfants souffrent de malnutrition sévère et 100 000 autres ont besoin d'un traitement vital contre la malnutrition aiguë accompagnée de complications médicales, ont alerté l'OMS et l'UNICEF. Les deux agences onusiennes précisent que le nombre de familles souffrant de la faim a presque doublé depuis un an. Plus de 20 millions de personnes, soit plus de 42% de la population du pays, sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, et c'est particulièrement vrai dans les zones où les affrontements font rage, au Darfour, à Khartoum, au Kordofan Sud et au Kordofan Ouest, selon un porte-parole de l'UNICEF. Citant une projection de l'université américaine Johns Hopkins, un communiqué onusien indique qu'au moins 10 000 enfants de moins de 5 ans pourraient mourir d'ici la fin de l'année. La guerre au Soudan a éclaté le 15 avril entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo.
Les juges d'instruction parisiens chargés des investigations sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de Bisesero au Rwanda en 1994 ont rendu une nouvelle ordonnance de non-lieu général. La Minute Éco, Mohamedou Houmfa.
Le Cameroun et la Chine ont signé le 17 octobre à Beijing une convention fiscale après 10 ans de négociations. Cet accord boostera sans doute les échanges entre le Cameroun et la Chine et permettra d'attirer encore davantage les investissements chinois au Cameroun, selon une note d'information du ministère camerounais des Finances. La signature de cette convention survient au moment où le gouvernement camerounais s'est engagé dans la concrétisation de plusieurs projets d'exploitation de minerais, très souvent prisés par la Chine. Le Kenya a adopté lundi 37 normes destinées à guider son secteur agricole pour promouvoir la sécurité alimentaire. Ces standards assureront que chaque foyer kenyan ne consomme que de la nourriture adaptée à une consommation humaine, a déclaré la secrétaire du cabinet pour le commerce, l'investissement et l'industrie, Rebecca Miano, à l'occasion de la Journée mondiale de la normalisation. En Tunisie, le président Kais Saied a limogé le ministre de l'économie et de la planification, Samir Saied, et a chargé la ministre des Finances d'assurer l'intérim. Cette décision intervient dans une période où le pays passe par une profonde crise économique et financière. Le taux d'inflation a atteint 9,3% en août et la croissance au deuxième trimestre n'a pas dépassé 0,6% selon les chiffres officiels.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Las Vegas conserve son titre de champion de la WNBA, la Ligue féminine américaine de basketball.
Oui, les Las Vegas Aces ont conservé leur titre de champion en remportant le 4e match de la finale face à New York 70-69. Las Vegas s'impose ainsi 3-1 dans la série. Menés durant la quasi-totalité des 3 premiers quart-temps, les champions en titre sont passés devant juste avant le début de la dernière période, 53-51. Les deux équipes ont bataillé tout le 4e quart-temps avant que New York n'échoue sur une dernière possession et un tir manqué de Courtney Vanderloek. La meneuse avait pourtant été l'une des rares à briller pour l'équipe haute avec 19 points, 7 rebonds et 6 passes décisives.
Samuel Chukwueze, blessé à une cuisse.
L'international nigérian de l'AC Milan s'est blessé à la cuisse gauche sous le maillot de sa sélection. Selon son club, Samuel Chukwueze a déjà regagné le centre d'entraînement de Milanello car il est revenu de la période passée en sélection, blessé à la cuisse gauche, a indiqué le leader du championnat d'Italie dans son communiqué. La durée de son indisponibilité n'est pas précisée par son club, mais la presse italienne évoque une absence d'un mois jusqu'à la prochaine trêve internationale.
Neymar, lui, souffre d'une rupture des ligaments croisés.
La star de l'équipe du Brésil souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche et va devoir être opéré. C'est ce qu'a annoncé la Fédération brésilienne de football. Neymar s'est blessé lors de la défaite contre l'Uruguay 2-0 mardi à Montevideo, un match de qualification pour le Mondial 2026. C'est un moment très triste, le pire. Je sais que je suis fort, mais cette fois, je vais avoir encore plus besoin de ma famille et de mes amis, a publié Neymar sur son compte Instagram. L'ancien joueur de Barcelone et du Paris Saint-Germain, âgé de 31 ans, est sorti en pleurs sur une civière juste avant la mi-temps, peu après l'ouverture du score de l'Uruguay.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président américain Joe Biden a quitté Tel Aviv en Israël au lendemain d'un tir qui a fait au moins 471 morts dans un hôpital de Gaza selon le ministère de la Santé de Gaza, probablement beaucoup moins selon un haut responsable européen du renseignement. Le sommet quadripartite qui était prévu entre M. Biden, le dirigeant de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie a été reporté sine die. Par ailleurs, des milliers de Palestiniens sont toujours pris au piège du blocus israélien à Gaza au 12e jour d'une guerre entre Israël et le Hamas. Nanit Talani a joint Souleymane Béchir Diagne, professeur à l'Université Columbia à New York, ici aux États-Unis.
Sa visite est compliquée par le fait que le Parlement américain en ce moment est paralysé par l'absence d'un président du Parlement, ce qu'on appelle Speaker of the House. Malheureusement, les Républicains sont incapables de se mettre d'accord sur un candidat. Or, il est important que le Parlement, bien entendu, puisse se réunir, puisque une des fonctions principales du Parlement, c'est de tenir la bourse des finances. La situation aujourd'hui dans le monde, en Ukraine, mais également en Israël, commande aux États-Unis, évidemment, de pouvoir intervenir financièrement et l'Amérique est dans l'incapacité de le faire, ce qui complique grandement de la visite du président Biden parce que quelles que soient les promesses qu'il fait, quelles que soient les décisions qu'il partage avec ses interlocuteurs au Moyen-Orient, il va bien falloir que le Parlement puisse les entériner et aller dans la même direction.
Suite à la tragédie qui a frappé l'hôpital à Gaza, la rencontre prévue entre Joe Biden et trois dirigeants importants, y compris Mahmoud Abbas de l'autorité palestinienne, a été annulée. Cela ne va-t-il pas compliquer davantage la situation?
C'est justement cette attaque absolument effroyable sur l'hôpital de Gaza qui va encore plus compliquer la situation parce qu'en effet, il était naturel pour le président palestinien de décréter trois jours de deuil national à la suite de cet effroyable massacre de Palestiniens réfugiés dans un hôpital. Et par conséquent, la visite qui était le deuxième temps, si vous voulez, du voyage du président Biden, qui lui aurait permis de tenir un sommet avec le roi de Jordanie, le président de l'autorité palestinienne et le président de l'Égypte, ce sommet a été annulé au dernier moment, ce qui fait que son voyage est amputé d'une partie importante de sa signification. Il s'agissait de rencontrer ses leaders pour essayer de faire en sorte que les Palestiniens ne soient pas enfermés dans cette prison à ciel ouvert qu'est Gaza au moment d'une intervention imminente, semble-t-il, d'Israël.
Que dire de ces civils palestiniens qui sont toujours sous blocus israélien à Gaza?
Cette question est insoluble, qu'il semble vouloir dire que bien que la rencontre physique ne puisse pas se faire, il va au moins entrer en contact, on imagine téléphonique, en fait tous les contacts possibles et imaginables, avec ces leaders-là. Parce que en effet, l'un des aspects de la visite, c'était de faire en sorte que ce corridor humanitaire puisse s'ouvrir, que les Palestiniens puissent, qui le souhaitent, puissent sortir de Gaza. Donc voilà toutes sortes de problèmes que le président Biden aurait évidemment souhaité discuter avec les trois interlocuteurs qui devaient le rencontrer dans ce sommet-là. Et une partie importante de son voyage est donc malheureusement vidée de sa signification à l'heure actuelle. Il reste évidemment des contacts directs autres que dans un sommet. Il faut quand même espérer pour lui que les contacts puissent se faire pour que les civils palestiniens arrêtent de souffrir de cette situation.
Le professeur Souleymane Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York, ici aux États-Unis. Des milliers de personnes ont manifesté à travers le monde arabe et musulman pour exprimer leur indignation face à la mort de plusieurs centaines de personnes dans un tir sur l'hôpital de Gaza. À Beyrouth, les manifestants qui voulaient s'approcher de l'ambassade américaine ont été repoussés par les forces libanaises. Eric Manirakidza a joint à Beyrouth Janine Jarre du quotidien L'Orient le Jour.
Écoutez, il y a eu des manifestations un peu partout au Liban, au sud notamment, de grandes manifestations au sud, cela va de soi, puisque c'est un peu le fief du Hezbollah. Mais évidemment, la manifestation la plus virulente, on va dire, s'est déroulée près de l'ambassade des États-Unis à Aucar, où il y a eu du grabuge qui a duré pendant une bonne heure, et jusqu'à ce que l'armée libanaise réussisse à repousser les manifestants hors du périmètre de l'ambassade.
Que réclament ces manifestants ?
Écoutez, les manifestants, c'est surtout une colère, beaucoup plus que des revendications précises. Ils sont en colère contre la visite de Biden en Israël, qui est une visite de soutien, évidemment, à l'État d'Israël. Et le président américain a également exprimé des doutes quant à l'origine du missile qui a frappé l'hôpital Al-Mahmadain à Gaza hier. C'est un ensemble de frustrations qui se sont accumulées depuis pratiquement que les États-Unis ont évidemment pris position en faveur d'Israël et en réitérant le droit d'Israël à se défendre dans cette guerre.
La visite de Biden a quand même permis l'ouverture du corridor humanitaire. Comment c'est perçu au niveau de l'opinion à Beyrouth ?
Objectivement, c'est une bonne chose, mais ce petit geste, n'est-ce pas, qui va calmer un tout petit peu le mécontentement, n'est-ce pas, de toute une base de Libanais et de Palestiniens qui sont vraiment remontés contre les États-Unis. Ils les accusent de parti pris avec l'État d'Israël qui est en train de commettre des massacres et des crimes contre le peuple de Gaza.
Mais ils n'en cautionnent pas des crimes commis par le Hamas.
Non, évidemment, vous savez, dans ce genre de situation, enfin, la base populaire dans le monde arabe ne va certainement pas cautionner l'action du Hamas. Pour beaucoup d'entre eux, le Hamas n'est pas un mouvement terroriste. Donc, c'est une question de perception, n'est-ce pas ?
Est-ce qu'ils ont des idées comment il faut mettre fin à ce conflit ?
Non, je pense que personne n'a aucune idée. Comment mettre fin à ce conflit, même pas le Hezbollah, à mon avis. Évidemment, les grands titres, c'est il y a des lignes rouges, on va dire, voilà. C'est-à-dire, il y a des lignes rouges qui ont été tracées par l'Iran et par le Hezbollah, à savoir qu'il ne doit pas y avoir une incursion terrestre à Gaza. Mais à part ça, je pense que les revendications ne sont pas encore claires, à part les grandes revendications du droit des Palestiniens à récupérer leurs territoires occupés.
Jointe hier à Beyrouth, Janine Jalk du quotidien L'Orient le Jour.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Gros plan à nouveau sur la guerre entre Israël et le Hamas, avec notamment la visite de solidarité du président américain Joe Biden dans l'État hébreu. Autre objectif, tenter de débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza au moment où la peur de l'embrasement gagne toute la planète. Le voyage du locataire de la Maison Blanche peut-il influencer le cours du conflit ? Quelle est la position des puissances du Moyen-Orient ? Quel rôle joue la communauté internationale dans la recherche d'une solution pacifique ? Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
Au Gabon, le délaissement des langues locales au profit du français inquiète les linguistes. Une alerte pour interpeller les autorités publiques sur l'urgence d'insérer ces langues dans le système éducatif. Le projet avait pourtant connu un début d'expérimentation dans quelques établissements scolaires de Libreville, sauf qu'il n'a pas prospéré. La crainte de voir les langues gabonaises connaître un déclin devient plus que préoccupante. Un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Censeur pédagogique au Collège Sainte-Marie de Libreville, Pascal Chela était l'une des volontaires du programme d'enseignement des langues gabonaises à l'école. C'est donc avec un pincement au cœur qu'elle évoque le souvenir de ce projet mort-né.
Le projet n'a pas abouti. Non seulement c'était pas soutenu parce que les établissements dépensaient, parce qu'on recrutait des gens, des volontaires, que les établissements payaient. Et comme ça devenait lourd, les établissements se sont résolus à supprimer complètement.
à la base du déclin de l'initiative gouvernementale, la plupart des langues n'ont jamais été écrites. Finalement, très peu d'établissements l'ont expérimenté. Directeur de la vie scolaire au Collège Bessieux à Libreville, Alix Kizito redoute la disparition d'un pan entier de la culture de son pays.
Un peuple qui ne sait pas s'exprimer dans sa langue nationale a toutes les difficultés du monde aussi pour s'exprimer dans les langues étrangères. Et tous les professeurs se sont simplement convertis en professeurs de français.
À la maison comme à l'école, le français reste le seul vecteur de la communication dans une société gabonaise pourtant multilingue. Daisy et Delia, deux élèves qui rêvent du retour de l'apprentissage des langues maternelles dans les établissements scolaires.
C'est un peu un petit avantage parce qu'on va savoir parler nos langues maternelles et paternelles.
La promotion des langues maternelles et de la vie de certains Gabonais d'un enjeu multiforme. Jilba, parent d'élèves.
Il faudrait également que le gouvernement gabonais puisse aussi décider quelle est la langue d'abord au départ qu'on peut parler, n'est-ce pas, comme tous les Gabonais, que tu sois enfant, pour nous, Nzébi.
Or, avec une cinquantaine de langues reflétant la diversité ethnique du Gabon, le pays peine à adopter une langue locale comme langue officielle. Professeur Yolande Nzambi, spécialiste des sciences du langage et de la communication.
Quel statut dans notre constitution est accordé à nos langues? Aucun. On nous dit tout simplement, en outre, la constitution œuvre pour la promotion, la protection. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, on peut aller bien loin? Donc, le statut minimaliste, tout ce qu'on vit aujourd'hui dans notre pays par rapport à nos langues maternelles, vient déjà de ça.
Les professionnels de l'éducation sont convaincus que la mise en place d'un observatoire national de la culture serait un premier pas vers la revalorisation des langues gabonaises. Ils en appellent à la diligence des autorités du pays. Libreville, Ismaël Obiancé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ovoué FM à Libreville.
Dans le centre du Mali, à Banyagara ou au plateau d'Ogon, la Kazapala, communément appelée Toguna, est un des piliers de la culture d'Ogon. Les sages du village s'y réunissent pour discuter des affaires de la communauté. Cette identité culturelle d'Ogon fait aussi office de palais de justice coutumière. De Koro, un reportage de notre correspondant Tidjani Ouedraogo.
Salutations matinales avant de se retrouver sous les grands hangars érigés au centre du village. Nous sommes au village de Gehuru, dans le cercle de Koro. Yakuba Togo, un sage du village, nous accueille sous les grands Toguna.
Le Toguna est un héritage culturel de nos ancêtres. C'est un lieu public où se réunissent les sages du village. Il est l'exemple de la cohésion sociale chez les Togons.
Cette identité culturelle d'Ogon repose souvent, mais pas toujours, sur les 8 piliers de bois, un nombre qui rappelle celui des premiers ancêtres d'Ogon. Les Togunas jouent plusieurs rôles dans les villages d'Ogon, comme nous explique Siabu Nyangali, acteur culturel à Koro.
Les lieux de recueillement et la place, n'est-ce pas, où la vérité se dit. Généralement, il n'y a pas de femmes dans le Toguna. Même quand il y a un jugement à faire, c'est au Toguna que ça se fait et les femmes sont tenues à l'écart. Les patriarches ont jugé que l'affaire de l'homme, c'est l'homme qui doit traiter cela.
En plus d'être un palais de justice, le Toguna est aussi un symbole d'hospitalité des Dogons.
Quand un étranger vient dans le village, il peut se reposer sur le Toguna. On lui offre de la nourriture et de l'eau pour lui témoigner de l'hospitalité du village.
Dans chaque village Toguna, le renouvellement d'un Toguna se fait selon des critères. Nous sommes ici dans le village de Yoyo pour le renouvellement du grand Toguna. Une grande fête est organisée pour la circonstance.
Notre grand Toguna est renouvelé tous les 7 ans. C'est une tradition ancestrale et tout le monde participe.
Les femmes sont aussi au rendez-vous pour la cérémonie.
Il y a 7 associations de femmes dans les villages. Nous préparons pour les hommes qui font le travail.
En plus du Toguna, d'autres identités culturelles comme les masques attiraient plusieurs touristes venus de partout. Mais la crise sécuritaire a porté un coup dur au secteur. Beaucoup souhaitent un retour de la paix pour permettre à ceux qui souhaitent venir visiter ou revisiter la beauté culturelle du plateau d'Ogon. Tidjani Ouédraogo pour VOA Afrique, Koro.
Au micro, Idrissa Sédoudia, bonjour.